Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Hello et bienvenue sur un épisode spécial FAQ d'Entreprendre dans la Santé. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à me contacter via LinkedIn pour discuter. J'ai régulièrement l'opportunité d'échanger avec des étudiants qui s'intéressent à ce que je fais, à mes études et à mes ambitions dans la santé, mais malheureusement je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous les messages et de passer un appel avec chacun de ces étudiants. C'est pourquoi il y a quelques semaines je me suis dit que j'allais organiser une FAQ en live pour que ces étudiants puissent me poser toutes leurs questions et ainsi bénéficier de mes réponses. La discussion a duré plus d'1h30, mais j'ai coupé au maximum afin de garder les questions que je jugeais pertinentes pour les auditeurs du podcast, qui sont pour certains encore étudiants. Dans cet épisode, on parle donc d'études, de création de contenu et de recherche d'emploi. J'espère que cela pourra en aider plus d'un, et si c'est ton cas, le meilleur moyen de me le montrer, c'est de me laisser une bonne note sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide à faire découvrir mon travail à un maximum d'étudiants entrepreneurs en santé, comme ça peut être ton cas. Merci et bonne écoute.
C'est plus un peu personnel par rapport à ton parcours. Est-ce que c'est ton master qui t'a poussé à entreprendre en faisant les podcasts? Parce que peut-être que c'est juste ta propre initiative et que les autres personnes de ton master sont pas forcément, vont pas forcément se faire ce genre de projet-là.
C'est une bonne question et c'est plutôt le deuxième point. C'est-à-dire que c'est plus personnel. À la base, ça venait vraiment d'un truc égoïste de me dire « Ok, je n'ai pas de réseau dans la santé. Comment je vais faire pour quand… » Il y avait combien de mois hein, je sais pas, en 8 mois. En 8 mois, je passe d'un étudiant lambda qui ne connaît personne à un mec qui connaît toutes les branches de la santé, qui a un carnet d'adresses rempli et qui aura vraiment le choix. Tu vois, moi, je déteste ne pas avoir d'options. J'aime vraiment pouvoir choisir vraiment le truc qui va me faire kiffer et je me voyais pas, tu vois, attendre comme là il y a plein d'étudiants qui vont vraiment attendre le dernier moment pour se poser des questions sur ok, qu'est-ce que je veux faire, dans quelle boîte je veux travailler, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Parce que c'est dans ces moments-là que tu prends pas les bonnes décisions parce que t'es en mode rush, tu vois. Et moi donc je me suis dit ok, si je veux m'ouvrir un max de portes, il faut que je parle à un max de personnes. Et c'est comme ça que le podcast est venu. Et après, je me suis dit, bah, comme je disais au début, voilà, si tu es étudiant, personne ne va vouloir te parler parce qu'il y en a des tonnes, des étudiants. Donc, il faut que tu te démarques et le média était un bon moyen pour faire ça. Tu vois, tu leur fais gagner en visibilité, tu les fais gagner en visibilité et eux, bah, ils t'apprennent plein de trucs. Et au final, c'est des discussions hyper inspirantes pour moi et pour plein de personnes parce que bah là, il y a à peu près 400 écoutes par semaine. Donc, c'est cool.
Et du coup, tu penses continuer après ton master dans ce terrain-là ou pas?
Je pense plutôt en side project, genre vraiment le continuer à côté. Moi, pour continuer à rencontrer des gens, continuer à vraiment apprendre parce que voilà, c'est comme si je faisais genre un MBA à côté ou un truc de networking à côté, tu vois, un club, comme si j'avais mon propre club d'entrepreneurs à côté, sauf que voilà, c'est un projet. Et donc je pense que ça serait dommage de l'arrêter, surtout que là je suis lancé. Après, c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu parce que je sors un épisode par semaine, c'est fatigant. Là j'ai de la chance que bah voilà, Covid, il n'y ait pas des tonnes de trucs à faire, du coup je peux y mettre beaucoup de temps. J'essaye d'automatiser, j'essaye de réduire les frictions pour produire les épisodes, mais ça prend du temps. Donc peut-être qu'après, une fois que j'aurai un job et qu'en plus s'il faut que j'écrive une thèse machin, peut-être que je vais réduire la fréquence, peut-être que ça va switcher sur du live qui demande moins de préparation, des trucs, peut-être un autre format, mais toujours vraiment kiffé. Et si je peux apporter de la valeur à quelqu'un, comme ce soir, bah, c'est cool.
Ouais. Et du coup, de parler avec tous ces entrepreneurs, tu penses toi aussi à monter ta boîte ou commencer plutôt dans une start-up?
Je pense... En fait, je le vois, enfin l'entrepreneuriat, je le vois pas vraiment comme voilà, j'ai envie de monter ma boîte, mais c'est plus si je comprends qu'il y a un truc à faire, comme le podcast. Voilà, je ne me disais pas, je vais
Oui,
lancer
c'est
un
ça.
podcast, mais j'ai compris qu'il y avait un truc à faire. Ben voilà, là, je me lancerai, mais après avoir validé qu'il y a vraiment un intérêt, enfin, toutes les étapes de monter une boîte, c'est tester l'intérêt, valider qu'il y a vraiment une demande, que les gens sont prêts à payer, etc. Après, ça peut venir, mais pour l'instant, je n'ai pas capté ce truc-là. J'ai peut-être des idées, mais pour l'instant, je préfère les garder en projet, comme je disais à côté, enfin, le podcast. Tu vois, autour du média, autour de la création de contenu, même voilà, autour de l'entrepreneuriat dans la santé, j'ai des idées. Mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir aussi de l'expérience et donc plutôt travailler pour l'instant. Et surtout, ça m'a vraiment ouvert énormément de portes. Enfin, c'est assez fou. On me propose des trucs, des jobs. J'ai même pas commencé à chercher vraiment, hein. J'ai pas postulé, je parle juste à des gens sur LinkedIn, on m'envoie des offres. Aujourd'hui, on m'a proposé deux emplois, enfin, c'est dingue. Donc, enfin, franchement, si vous voulez vraiment vous démarquer, il y a plein de moyens d'y arriver, il faut juste s'en donner les moyens et trouver un créneau, trouver un truc. Enfin, je sais pas si vous êtes familier avec le concept de Ikigai, en gros, c'est genre. Vous, quelles sont vos forces, quel est le besoin du marché et en gros, comment vous allez mixer ces trucs-là pour en faire quelque chose que seul vous pouvez faire et qui va vraiment apporter de la valeur à quelqu'un. Et pour moi, c'était ce podcast-là parce que je suis curieux, j'aime bien parler et en même temps, il y a vraiment un intérêt du marché pour l'entrepreneuriat et il n'y en avait pas dans la santé. Donc voilà, je me suis dit, paf, on mixe tout ça et voilà. Et après, c'est dans la force de l'exécution. C'est pas juste penser, c'est se lever pour produire des épisodes de podcast quand parfois on n'a pas envie, faire du montage, envoyer des emails, écrire des mails. Voilà, moi, c'est pas des trucs qui me font forcément kiffer, mais à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et après, ça paye, quoi.
Juste une petite dernière, du coup, tu parlais d'offres d'emploi et du coup, je vais revenir aux offres de stage. Est-ce que toi, tu as souvent des professionnels qui te demandent des offres de stage quand tu fais les, enfin, tu partages leur contenu ou autre?
Qui me demande comment ça?
Bah, qui te propose de repartager des offres de stage ou des choses comme ça? Parce que
Ah
c'est vrai que
ouais.
nous, en tant qu'étudiants, enfin, on cherche souvent au moins un moment, quelle que soit la filière, un stage. Et si jamais tu avais des professionnels qui proposaient des stages, bah peut-être que ce serait plus simple pour nous d'y. On pourrait demander soit en candidature spontanée, soit des offres établies, quoi.
Complètement. Bah les deux en fait. Les deux, bah, par exemple, la semaine dernière, il y a une startup qui m'a contacté, un mec qui suit mon travail et qui m'a contacté pour que je partage son offre. Enfin, soit que je recommande quelqu'un, soit que je partage son offre, ou les deux. J'ai fait les deux. Donc voilà, après, moi, je contacte des gens que je juge intéressants pour l'offre. Je suis pas recruteur, je suis pas chasseur de tête, mais je sais voilà quel type de profil, je sais quelles personnes sont en contact avec moi. Et là, en l'occurrence, c'est des profils vraiment. Bah, je donne vraiment ce que j'ai de meilleur. et donc, j'ai recommandé. Après, je ne sais pas si la personne va être prise, mais typiquement, vous, si il y a des entreprises qui vous intéressent, si on se connaît bien, voilà, on peut parler, etc. Il n'y a pas de mal à ce que je fasse une intro s'il y a une offre de stage qui est publiée, par exemple. Si vous voyez une offre de stage sur Welcome to the Jungle, comme ça pouvait être le cas pour toi.
Du coup, tu as des astuces, des conseils bah, pour trouver un stage, parce que du coup, bah, je postule à droite et à gauche
Ouais.
et toujours rien, quoi. Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Bah, pas postulé. enfin, faut faire les deux. En fait, faut faire les deux. Mais en fait, ça dépend comment tu l'approches. Si tu le veux en mode vraiment hardcore, tu fais comme moi, tu prends le process vraiment au tout début, c'est-à-dire avant même que tu sois en mode recherche de stage. Et tu te mets en avant à travers ton truc, ta marque, quelque chose. Et tu te crées un contexte pour rencontrer les personnes avec lesquelles tu voudrais travailler plus tard. Donc typiquement, ça peut être voilà, une junior entreprise de pharma. Si tu es dans le pôle commercial, bah, par exemple, tu vas être au contact potentiellement de gens avec lesquels tu voudrais bosser plus tard. Voilà, c'est une idée. Mais ça peut être un média, ça peut être un blog, tu vois. Enfin, un blog, ça prend pas des tonnes de taf si tu le regardes comme ça, mais si tu fais un blog, je sais pas, sur une niche, vraiment une niche, et ben tu contactes les gens, quand tu les mets en valeur, quand tu leur demandes pas de payer, ils vont dire oui à chaque fois. Après, le plus dur, ça va être de commencer parce que, en gros, personne t'attend. Si tu veux, personne va vouloir déjà lire ton contenu, regarder, t'écouter, peu importe ce que tu fasses, personne te connaît. Les premiers que tu vas contacter, ils vont regarder ton blog, ils vont faire, il n'y a personne, genre, y a pas d'interview déjà publiée. Du coup, faut trouver le truc pour commencer, tu vois. Tu vas pas si c'est un podcast, tu vas enregistrer 5 épisodes avec ton réseau proche. Tu vas demander à une personne avec laquelle ça a marché de te recommander à 3 autres personnes. Et de fil en aiguille, voilà, tu vas faire grossir un peu ce premier cercle, deuxième cercle, etc. Ça, c'est la première méthode. Tu crées un contexte pour parler avec les gens avec lesquels tu voudrais bosser plus tard. Après, un peu moins hardcore, c'est démarcher, vraiment démarcher. Des gens, que ça soit sur LinkedIn, créer des conversations pour en fait pas te positionner en mode je veux candidater, est-ce que vous avez 30 minutes pour discuter, mais plutôt en mode curieux, tu vois. C'est-à-dire, bah, ça m'intéresse ce que vous faites, je suis et tu donnes le contexte, etc. Et après, un call to action simple, est-ce que vous aurez un quart d'heure, un midi juste pour échanger sur votre travail et ce que vous faites chez X, nom de la boîte. Et après, bah, tu fais ça dans une entreprise, tu l'envoies à une personne, ça ne répond pas, tu l'envoies à une autre personne dans la même boîte, dans la même boîte, dans la même boîte, dans la même boîte. Il y en a un sur 10 qui va répondre. Lui, il va peut-être te dire, ah, bah, pas moi, mais peut-être que machin, il pourrait te parler. Et franchement, ça marche, hein. Et si tu te positionnes plutôt comme curieuse et apprenante, plutôt que je ramène ma poire, tiens, tiens, mon CV, je l'upload avant même que tu aies répondu à mon message. Non, genre là, non, ça fait forceuse. Non. Mais ouais, apprenant, c'est bien. Et puis en parallèle, postuler et contacter les recruteurs, c'est-à-dire que tu postules, mais pas juste postuler, tu vas envoyer un message à côté. Donc vraiment, pas avoir peur de communiquer et de parler et de le faire en masse, pas juste attendre, se dire, ah, bah, il y a une personne dans la boîte qui ne m'a pas répondu, je passe à la prochaine, tu vois.
Ok, je vois, merci.
Et relancer, ah oui, et la relance, n'en parle pas assez, mais en gros, bah, c'est ce que je disais, c'est que personne t'attend. Enfin, si tu relances pas la personne, elle a sa vie, elle a son taf, elle a ses gosses, elle a ses problèmes. Et après, faut que tu montres de l'empathie, c'est-à-dire que bah, dans ton message, il faut que tu montres que tu comprends que la personne elle est occupée, etc. Mais il faut quand même que tu montres que voilà, tu es là et en quoi toi tu peux lui ajouter de la valeur et potentiellement en quoi tu serais un bon match si elle t'accordait 15 minutes pour échanger. Et là, faut que tu les prépares tes 15 minutes.
Et enfin, du coup, le délai pour relancer une personne, on se laisse combien de temps? À peu près une semaine, plus, moins?
Ah non, non, non. Bah déjà, ça dépend si la personne elle t'a donné un délai, c'est-à-dire que si elle te donne un délai, tu le respectes. T'attends pas, genre, c'est pas le jour même, genre, oui, on avait dit lundi. C'est genre, tu lui laisses quand même un jour de marge, et là, tu reviens vers elle poliment, avec de l'empathie. Mais sinon, si elle te donne pas de délai, 3 jours par exemple, c'est bien.
D'accord. D'accord.
Ouais. Parce que une semaine, elle t'a oublié, enfin.
On peut faire ça assez vite, quoi.
Ouais, surtout quand c'est compétitif. Tu vois, s'il y a une offre qui est en ligne, c'est que voilà, ils sont en train d'interviewer. Maintenant, les plateformes de candidature, elles enlèvent les offres généralement dès qu'elles sont occupées. Donc,
Bah, super, merci.
ouais, bah de rien. Après, il y a des astuces hein, sur la relance, c'est garder le même canal de communication, c'est-à-dire que si c'est via LinkedIn, tu relances via LinkedIn. Si la personne ne répond pas, tu envoies un mail. Et après, si tu veux vraiment le pousser, le truc hardcore, si tu prends ton téléphone, et généralement, c'est là où elles vont faire, oh, ah bah oui, bah oui, bah d'accord, bon, bah on parle. Et en fait, enfin, c'est comme de la vente, tu vois, c'est les mails, tu peux toujours les éviter. Mais les appels, tu peux pas les éviter. Et généralement, elle sait pas que c'est toi qui appelles. Et là, elle va faire, ah, Bon, bah, ok, bah, on parle. Bah, en fait, si elle ne te répond pas, c'est qu'il y a une raison. Et tant que tu n'as pas mis le truc de côté, tu t'en fous. Enfin, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vois, au pire, elle te dit non, la personne. Elle te dit, bah non, je suis désolé. Mais elle ne va pas te dire, mais pourquoi vous m'appelez? Vous voulez vraiment ce job? Bah oui. Tu vois, enfin, on ne va pas te reprocher de forcer pour avoir un job. Et moi, j'ai des potes pour décrocher des alternances. Ils ont été refusés. Ils ont forcé pour avoir les raisons de leur recrutement, de leur refus. Ils ont été pris parce qu'ils ont forcé.
Au niveau de, enfin, pour contacter les recruteurs, c'est à faire en parallèle d'un, enfin, s'il y a un stage qui m'intéresse, que je postule, je contacte à côté le recruteur pour, c'est ça, pour montrer la motivation, ou c'est à faire sinon en amont, même sinon en candidature libre, au cas où il y a une offre de stage qui correspond à ce que j'attends, ou c'est dans quel sens on va.
S'il y a une offre qui est déjà en ligne, faut pas juste contacter la personne. Parce que sinon, elle va dire, bah non, mais il y a une offre, là, tu me fais chier, tu vois, genre, tu postules, voilà. Mais par contre, tu postules et tu lui envoies un message. Et dans le message, tu dis que bah, tu as postulé, voilà, tu es très intéressé parce que, nanana, nanana, court, hein, tu vois, mais toujours expliquer pourquoi, genre, et faire le lien avec ton profil, l'offre. Et dire que tu as postulé. Voilà, c'est tout simple. Mais en gros, notifier, tu vois, que tu es là.
Ok, ça
Et
marche.
après, en amont, s'il y a pas d'offre, bah, tu peux toujours. Enfin, tu vois, moi, généralement, je regarde vraiment, même quand je recherche pas. Comme ça, je me fais une idée vraiment un peu de l'état du marché. Ok, là, il y a telle boîte qui a publié une offre qui est intéressante. Mais bon, dans 2 semaines, elle n'y sera plus. Mais tu vois, c'est resté dans ma tête. Et derrière, j'ai un fichier Google Sheet où je mets toutes les boîtes qui m'intéressent. Je mets les noms des personnes. Si j'ai des infos sur les personnes, je les mets dans mon fichier. Et après, bah, tac, c'est beaucoup plus facile pour visualiser. Ah, bah tiens, c'est vrai que je m'étais noté cette entreprise. Maintenant, je l'ai noté sur un bout de post-it, je ne sais plus où. Tu vois, vraiment faire ça hyper méthodiquement. Ça va vraiment t'aider à structurer ta recherche. Bonsoir, je voulais savoir quoi faire si on n'a pas d'expérience, parce que personnellement, je reçois des refus sous prétexte que j'ai pas d'expérience. C'est vrai que c'est un peu la poule et l'œuf. Si t'as pas d'expérience, bah, c'est dur d'en avoir. Après, donc on a parlé au début, vraiment miser sur bah, les projets à côté, c'est ce qui va faire la différence. Et en fait, si t'as pas d'expérience, j'ai envie de dire, créer ton expérience. Bah, si tu n'as rien pour te démarquer pour l'instant, qu'est-ce que tu attends, tu vois, pour faire quelque chose à côté? C'est-à-dire que si tu sais que c'est vraiment un problème, bah, prends-le vraiment à la racine et fais quelque chose toi avec tes propres mains. Après, tout le monde n'a pas forcément l'envie de créer quelque chose de A à Z, mais soit tu crées ce truc qui te manque, soit tu prends vraiment un truc qui va, ça s'appelle un effet de levier. Tu vas vraiment viser un truc qui est atteignable, qui est petit, mais tu sais qu'il faut passer par là. Tu vois, par exemple, ça peut être bosser pour une petite boîte dans la santé. C'est pas connu, ok, ça va pas briller sur ton CV. Mais ensuite, tu auras cette petite expérience, tu vas faire un petit effet de levier pour avoir une plus grosse, etc. C'est-à-dire un peu te dire, bah voilà, ok, il faut bien que je commence à un moment, donc. Je vais viser en bas, je vais viser le truc qui va me permettre de m'ouvrir des portes par la suite. Et après, il ne faut pas que jouer sur l'expérience. En gros, il faut bah, te démarquer sur le reste. Tu vois, genre, typiquement, data science et si tu es infirmière de base, bah, en gros, il faut que tu expliques en quoi, toi, ton parcours d'infirmière, bah, ça te permet d'avoir, tu vois, des clés de compréhension. Il faut que tu apprennes un peu à te vendre, à structurer ton discours pour dire que. Bah, tu vois, par rapport à un data scientist qui a, je sais pas, travaillé chez Flixbus, connerie, tu vois, mais il y en a plein. Et ben, est-ce que lui va vraiment comprendre comment ça se passe dans un établissement de soins, ou est-ce que, ok, toi, bah, t'es peut-être pas la meilleure data scientist, mais tu sais comment ça fonctionne. Si tu as besoin de poser des questions, tu connais des gens dans le monde de la santé et ils sauront répondre à tes questions, même quand tu travailleras en tant que data scientist. Et tu vas montrer vraiment ta petite valeur ajoutée.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais notamment, il me semble que tu en avais déjà fait un avec un live concernant voilà, les podcasts dans la santé.
Et je voulais te demander comment toi tu vois l'évolution, notamment des podcasts, bah, en France, parce que je sais que voilà, aux US c'est assez développé, et notamment dans le secteur voilà, santé et digital.
Ouais, faut savoir que du coup c'est les podcasts, mais c'est l'audio en général. L'audio, il y a un gros boom.
Par exemple.
Pardon, j'ai pas.
Avec Clubhouse aussi.
Voilà. En gros, l'audio va prendre une place énorme prochainement. Et d'ailleurs, c'est le prochain épisode, je vous encourage à écouter avec DeepOR, qui fait un assistant vocal pour les blocs chirurgicaux, enfin pour les équipes en bloc chirurgical. En gros, l'audio, maintenant, il y a vraiment de nouvelles technologies qui sont en train de se développer dans l'audio, notamment dans l'interprétation du langage naturel. Et ça, typiquement, bah, c'est ce que j'apprends dans mon master. Et donc, bah, là, le podcast, bon, ça n'a rien à voir. Hein, mais l'audio, maintenant, on est vraiment dans le comment dire, l'ultra de la société de consommation, en mode, tu vois, tu vas vouloir maximiser ton temps. Et le temps que tu passes à faire ton ménage ou à faire tes courses, eh ben, c'est une opportunité pour apprendre sur un sujet qui t'intéresse ou pour t'inspirer ou pour voyager. Et ça, tu ne peux pas le faire en regardant une vidéo YouTube. Alors, YouTube se met à développer un feature pour faire sans le son, parce que voilà, ils voulaient se mettre comme... pour faire sans la vidéo, pardon. Mais en gros, typiquement, maintenant, tout le monde veut consommer dans n'importe quel moment, que ce soit de la lecture, des vidéos, de l'audio. Et donc, l'audio permet de bah, vraiment combler un manque qu'il y avait... Et donc, le podcast, pour moi, il y a énormément encore de choses à faire, notamment les marques se lancent énormément dans le podcast. Tu vois, il y a plein de startups, même des startups, ça me fait rire, des startups qui sont passées sur le podcast, qui après lancent un podcast. Et après, il y a les labos pharma aussi qui lancent des podcasts avec, en collaboration avec des gens dans le secteur, parce que ça permet de faire du contenu, ça permet de se positionner comme expert sur une thématique. Tu vois, moi, je connaissais rien à la santé. Hein. Et ben maintenant, tu penses entrepreneuriat et santé. Et ben le podcast il ressort en premier parce que bah, je suis le seul mec qui a interviewé presque 50 fondateurs dans l'entrepreneuriat en santé, et donc ça te positionne comme un expert, ça te fait un gros réseau, ça te permet d'en apprendre, franchement c'est ultra bénéf.
Merci. Oui, du coup tu penses que c'est vraiment en faisant, en se lançant dans un domaine, dans un secteur, et qu'on apprend forcément, et du coup qu'on développe voilà, un intérêt particulier, un réseau.
Bah, en fait, typiquement, moi, tu vois, je ne me considère pas comme entrepreneur dans la santé, mais en fait, j'en suis un peu en parallèle, parce que je fais partie des médias dans la santé, et donc je fais partie de cet écosystème-là. Et donc, je pense que, tu vois, j'ai beau ne pas avoir fait quelque chose pour les patients, je n'ai pas un impact sur le soin, mais il y a des gens qui entreprennent et qui écoutent mes podcasts et qui trouvent de la valeur, et ça c'est kiffant, tu vois, genre tu te dis que bah il y a des gens qui vont eux avoir un impact, donc ça fait effet pyramidal, genre. Et ouais, je pense que ouais, ça c'est en faisant, en te lançant, enfin tu prends aucun risque, voilà. Le truc c'est que le podcast c'est vraiment un média ingrat, c'est-à-dire que c'est ingrat parce que t'auras pas de retour sur qui écoute, enfin. Tu vois, c'est pas comme YouTube. YouTube, tu peux percer rapidement. Genre YouTube, tu publies 4 vidéos sur des trucs très tendance, avec des miniatures, des titres putaclic, vraiment les trucs qui vont vraiment faire tourner l'algorithme à fond. Et ben, tu peux percer vraiment comme sur TikTok, tu vois. Alors bon, c'est pas non plus si simple que ça, mais c'est faisable. Il suffit de comprendre un peu le marketing, de comprendre ton audience et de faire des effets de levier avec 2-3 personnes qui sont connues dans le milieu, qui vont partager ce que tu fais. Et vraiment, tu peux percer. Le podcast, tu vois, il n'y a pas encore tout ça. Ça va peut-être venir, mais le podcast, c'est ultra décentralisé. C'est que tu peux l'écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur des applis spécialisées comme Castbox, sur laquelle je suis. Et donc, du coup, il n'y a pas cette viralité, il n'y a pas d'espace commentaire, tu vois. Personne ne peut parler de mon podcast dans un espace commentaire. Moi, j'aimerais bien qu'ils en parlent, tu vois. Même si c'est de la merde, si tu le mets, c'est que tu as écouté. Mais là, il n'y a pas. Donc, faut trouver vraiment d'autres moyens d'engager avec son audience. Moi, via LinkedIn, j'ai une newsletter, il y a presque 350 abonnés, mais il faut trouver des trucs en parallèle, tu vois.
Concernant, en fait, du coup, t'as fait des stages aussi à l'étranger. Comment est-ce que tu as réussi à avoir des stages à l'étranger ? J'ai beaucoup de mal à en trouver.
Ouais. Alors moi, c'est très spécial. Du coup, c'était pas des stages, c'était une alternance. Et c'était une alternance, en gros, pour la petite histoire, moi, du coup, j'ai commencé à apprendre l'allemand très jeune. Mmh. Et typiquement, c'est un peu ce que je fais maintenant. Mais en gros, je voulais mettre un max de chances de mon côté pour pouvoir repartir travailler, pour pouvoir travailler à l'étranger. Et donc, pour pouvoir faire ça, du coup, c'est passé par des échanges. Donc, en quatrième, je suis parti 2 mois et demi en Allemagne. Ensuite, j'ai fait un bac franco-allemand. Pendant mon bac franco-allemand, je pouvais repartir. Donc, j'ai refait 3 mois en Allemagne. Et ensuite, là où tous mes potes, ils ont passé l'été à se la couler douce, on va dire, en France, après le bac, moi, je suis reparti travailler en Allemagne. J'ai pris un job d'été en tant que serveur. C'était ultra dur, mais bien payé, par contre. Mais je savais que, tu vois, typiquement, c'était le conseil que je donnais à Sabri, c'est que voilà, je ne vais pas faire serveur dans la vie. Mais je sais que si je veux être validé, on va dire, par... Si je voulais avoir ma street cred sur le marché international du travail, il faut commencer à un endroit. Et donc, du coup, ça passait par des échanges, ça passait par des jobs d'été. Et après, effet de levier, j'ai intégré cette double licence franco-allemande là, en business international qui était en alternance. J'ai cherché vraiment comme un ouf une alternance parce que j'avais 18 ans, j'avais zéro expérience. Donc, j'ai passé des entretiens. Salut Maëlys, j'ai passé des entretiens pour plein de boîtes, genre Decathlon et tout. Et en fait, c'est une boîte qui est venue me chercher pour aller travailler à l'étranger. Parce que en gros, ils étaient partenaires de la fac en Allemagne, ils ont vu que je parlais allemand. Du coup, ils ont pris 10 CV de la promo et ils nous ont fait passer des entretiens. Moi, je parlais bien. Après, je pense que j'ai su être convaincant. Et ils m'ont invité pour un entretien en Autriche, à leur siège international. J'avais 18 ans. Qu'on te fait prendre un avion, tu dors à l'hôtel, t'es un bébé. Hein. j'étais dans les 2 derniers candidats au dernier entretien et j'étais pris comme ça. Et après, en gros, c'était un programme vraiment très spécial. Donc, c'est compliqué, tu vois, je peux donner des conseils après pour trouver, mais te réfère pas trop à ce que j'ai fait parce que c'est vraiment spécial. En gros, c'est un programme où tous les 3 mois, je partais dans un nouveau pays pour travailler. Donc, la boîte me payait pour aller travailler dans ses filiales à l'étranger. Donc, j'ai commencé en Allemagne. Ensuite, ils m'ont envoyé en Autriche. Ils m'ont envoyé en Suède, au Canada. Après, je suis retourné en Suède. Et après, j'ai travaillé depuis chez moi parce que c'était en Covid, mais je travaillais pour le Canada. Et donc... voilà, c'était vraiment très spécial. Mais c'était vraiment pas des conditions que tu retrouveras en France tout de suite. Genre, c'était dingue. Enfin, après, j'ai des conseils, d'autres conseils. C'est si tu cherches à l'étranger, déjà, il faut que tu sois clair dans ta recherche. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, il y a des recruteurs avec lesquels je parle. C'est typiquement, j'ai refusé des jobs parce qu'ils étaient en France. Mais par contre, je leur demande de transférer ma candidature à leurs collègues à l'étranger. Après, ils le font ou ils ne le font pas, tu vois, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est-à-dire que dès le début, je dis oui à chaque fois, tu vois, il y a des boîtes, des postes qui ne m'intéressent pas, mais je prends l'entretien et après, je place que je cherche à l'étranger et j'essaye qu'ils forward ma candidature à leurs collègues. Et après, de bouche à oreille, de fil en aiguille, ce que tu veux, ça peut mener sur un truc.
D'accord.
Et après, sinon, c'est les techniques que je disais de base, hein, c'est harceler les gens de manière intelligente, on va dire, mais d'adapter un peu à la culture, c'est-à-dire qu'il y a des sites aussi en fonction du pays. Tu vois, en Allemagne, il y a le LinkedIn allemand qui s'appelle Xing. Après, je ne sais pas dans quel pays tu recherches, mais peut-être que si tu recherches, je ne sais pas, au UK, il y a des sites spécialisés. Et après,
Actuellement, je recherche dans des pays qui sont surtout anglophones.
Ok.
Après, en fait, ça va être pour un stage de 4 mois, parce que c'est vrai pour mon stage hospitalier que je voudrais faire ça. Mais du coup, avec le Covid, on va dire que j'essaye surtout de chercher en Europe, alors que j'aurais aimé partir de l'Europe, mais pour maximiser mes chances de partir, en fait, tout simplement.
Après, test vraiment un conseil, c'est vraiment pas sous-estimer le réseau. C'est pense, mais vraiment pense réseau large, tu vois. Pas juste les gens que tu connais dans les anciens. C'est tu connais un prof. Lui, le prof, il a vu tous les élèves passer, tu vois. Il a peut-être gardé contact avec 5 personnes. Il y en a peut-être 2 qui ont fait un stage à l'étranger. Il y en a peut-être 1 qui va répondre. Et ben, peut-être que lui, ça va être la bonne personne. Et donc, vraiment, voie large, tu vois, genre les profs, s'il y a, je sais pas, des intervenants qui sont venus pendant ton cursus, si tu as le collègue de la tante de ta voisine qui a bossé, qui a fait un stage là-bas. Eh ben, tu vas le voir, tu lui parles, il faut que tu sois convaincante sur ton projet et tout. Et vraiment, sois confiante parce qu'à l'étranger, genre, tu vois déjà en France, personne ne t'attend. Enfin, c'est la guerre, on va dire. Mais à l'étranger, dis-toi que tu as encore plus de friction parce qu'eux, ils peuvent recruter un local. Y aura moins de galères, il y a encore moins d'incertitudes. Toi, t'es l'incertitude level max. Est-ce que tu vas comprendre leur manière de travailler? Est-ce que il ne va pas y avoir une merde dans ton contrat, tu vois? Donc, maximise les chances. Et après, si tu es vraiment déter, ça va marcher.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.